le magazine des Nations Unies.
Le mandat de la MONUSCO prorogé jusqu'en mars 2017, c'est là l'un des points forts de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en République démocratique du Congo, un dossier dans cette émission. Et puis 330 000 m² de terrain dépollués, 200 mines retirées, 30 000 résidus d'engins explosifs et 69 sous-munitions détruits. Bilan du programme UNMAS de la MONUSCO en 2015. Un expert de ce programme est notre invité à l'occasion de la célébration ce lundi de la journée mondiale anti-mines. Enfin, le ACR tire la sonnette d'alarme. La situation humanitaire d'environ 29 000 déplacés est préoccupante à Mpati et Kivuye dans le territoire de Masisi. Suite aux opérations militaires des FARDC contre la coalition FDLR-APCLS, l'agence onusienne appelle à travers son plaidoyer les autorités congolaises à assurer la protection des populations civiles. Les détails dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies. Nous le disions en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de la MONUSCO pour un an encore dans sa dernière résolution, adoptée à l'unanimité mercredi 30 mars 2016. Honoré Missenga-Kalala nous fait le point de cette situation.
Il s'agit de la résolution 2277. Elle proroge d'un an le mandat de la MONUSCO et de sa brigade d'intervention jusqu'au 31 mars 2017. Mais pour la brigade d'intervention, une précision s'impose. La prorogation du mandat, le Conseil de sécurité l'accorde d'une manière exceptionnelle. Outre le maintien des effectifs actuels de la force de l'ONU, la résolution 2277 fixe aussi des tâches prioritaires du mandat de la MONUSCO, entre autres, protéger les populations civiles, promouvoir la consolidation de la paix et un dialogue politique transparent respectant la Constitution et s'impliquer dans la révision des listes électorales et la tenue des élections par une assistance technique et logistique. Voilà qui concerne la part de la MONUSCO. Concernant la partie congolaise, volet électoral, le Conseil de sécurité invite la Commission électorale indépendante CENI à publier un calendrier complet révisé couvrant tout le cycle électoral. Il demande en même temps au gouvernement congolais d'élaborer rapidement un budget et un code de conduite pour les élections et d'actualiser d'une manière régulière les listes électorales.
En rapport avec la prorogation du mandat de la MONUSCO d'une année, le représentant de la RDC auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ignace Gatamavita, a déclaré que la délégation congolaise a pris acte de la résolution du Conseil de sécurité, tout en exprimant ses regrets. Je vous propose de l'écouter.
Ma délégation prend acte de la résolution que vient d'adopter le Conseil relative au renouvellement du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Tout en remerciant le Conseil pour cet acte et à travers votre organe, l'Organisation des Nations Unies, mon gouvernement regrette et ne peut s'en cacher que la résolution ait choisi d'ignorer les points de vue pertinents de la République démocratique du Congo sur des questions essentielles qui engagent son avenir, notamment sur les élections, la lutte contre les groupes armés et la réduction de la force de la MONUSCO. Concernant les élections, mon pays tient à l'organisation des élections libres et respectueuses des standards internationaux en matière d'inclusivité, de transparence et de crédibilité. L'insistance du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de mon pays sur l'importance que la République démocratique du Congo attache à la paix et à la stabilité ne devait pas être interprétée comme un prétexte pour mon pays à repousser les élections.
Les autorités congolaises sont appelées à assurer la protection et la sécurité des populations civiles déplacées de Mpati dans le Massissi au Nord Kivu. Appel lancé ce mercredi par le ACR à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Selon les informations en possession du ACR et qui restent à vérifier, environ 29 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, seraient en insécurité suite aux opérations militaires de neutralisation de la coalition APCLS-FDLR Maïmaï Nyatura dans cette zone. Messieurs Andreas Kirchhoff, administrateur principal régional chargé des relations extérieures du ACR, explique la situation humanitaire et le plaidoyer du ACR. Ses propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Effectivement, il y a une situation très préoccupante, mais le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés n'a pas des informations précises parce que la zone reste inaccessible, il y a des combats. Notre partenaire, la Commission nationale pour les réfugiés, est plus sur place. Il y a des informations comme quoi il y aurait environ 29 000 personnes qui étaient dans le site de Mpate et Kivuye, qui ont quitté ce site, mais on ne peut pas vérifier ces informations pour le moment. On encourage tous les acteurs d'assurer la protection des civils. Il faut rappeler que environ 5 parmi 6 de ces déplacés sont des femmes et des enfants, et toute fermeture des sites doit prendre cela aussi en compte. Il revient aussi aux autorités d'assurer le caractère civil des sites.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous revenons sur la matinée scientifique organisée la semaine dernière sur le cancer du col de l'utérus ici à Kinshasa. Le cancer du col de l'utérus est l'une des causes de mortalité des femmes en RDC. Environ 6000 femmes sont diagnostiquées avec ce cancer chaque année et presque les 5000 en meurent d'après les statistiques. Au cours de cette matinée organisée par l'UNFPA et la fondation Mutombo Dikembe, la représentante de l'UNFPA en RDC, Madame Diane Keita, a épinglé l'importance de cette rencontre, mais aussi l'implication de son organisation dans la lutte contre ce fléau. Je vous propose l'entretien qu'il a eu avec Jean-Pierre Elali Coco.
Madame la représentante, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'assister à cette matinée scientifique sur la prévention et le traitement du cancer du col de l'utérus. Vous avez aussi participé à cette matinée-là. Est-ce que nous pouvons, à votre niveau, connaître un peu l'importance de cette rencontre de ce jour?
Merci beaucoup pour la question. Cette matinée scientifique est absolument cruciale. Grâce à la fondation Dikembe Mutombo, qui est l'une de nos fondations partenaires, ils nous ont contactés et qu'ils voulaient vraiment amener ici un professeur qui a fait ses preuves en Afrique et particulièrement en Zambie pour attaquer la problématique du cancer du col de l'utérus. Donc, et ici, c'était important de partager avec la communauté scientifique et les partenaires au développement, et la société civile, et les jeunes, ce que ça impliquait, ce que cela voulait dire. Donc on a eu la chance ce matin qu'on nous explique dans des langages simples ce que ça impliquait dans la vie d'une femme. Une femme, à partir du moment où elle a ses premiers rapports sexuels et sa première vie de femme adulte, jusqu'à son âge adulte. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de prévenir. C'est une maladie transmissible, mais il y a moyen de prévenir et on peut le faire pour toutes les jeunes filles et adolescentes qui n'ont pas encore eu le premier rapport sexuel. Donc, pour nous, c'est une méthode phénoménale pour sauver la vie des femmes. Le taux de mortalité maternelle est élevé dans ce pays. Et si nous pouvions déjà prévenir que les nouvelles jeunes femmes en devenir puissent être protégées, c'est un bon point.
Vous venez de parler de l'expérience des professeurs qui est venu de la Zambie à partager avec les participants. Quel apport cela peut amener ici en République démocratique du Congo en ce qui concerne justement la prévention et la prise en charge des femmes qui sont disposées à faire les cancers du col de l'utérus?
Vous savez, ce partenariat participe de notre effort en tant que Fonds des Nations Unies pour le développement d'appuyer la RD Congo à mettre en avant les différentes pratiques qui existent pour sauver les vies des femmes. Et là, ce professeur qui est un spécialiste avéré en urogynécologie permet de réparer l'appareil urogénital des femmes qui souffrent du cancer du col de l'utérus. Et ça ne s'improvise pas. Exactement comme les réparateurs de fistules que nous amènerons la semaine prochaine, ça ne s'invente pas. Ce n'est pas des discussions à l'emporte-pièce dans des salons. Ce sont des professeurs discrets dont on n'entend jamais parler et qui sauvent des centaines et des centaines de vies de femmes. Et nous avons eu la chance d'avoir le professeur Grosbeck Parham, un Américain qui a dédié sa vie à soigner les femmes en Afrique. Et je crois que c'est une opportunité pour nous qui avons d'autres professeurs qui arrivent encore la semaine prochaine pour réparer les fistules obstétricales, de pouvoir tirer bénéfice de leur expérience parce que ces réparations demandent de la pratique.
Vraiment, ça demande de la pratique. Et Madame, dernière question. Mm-hmm. Vous avez parlé de votre organisation aussi, mais quelle est l'implication de votre organisation dans la prise en charge et notamment, dans la prévention de cette maladie qu'est le cancer du col de l'utérus?
Notre apport est de deux sortes. L'un, l'apport scientifique, parce que nous prenons en charge les experts de haut niveau qui viennent pour qu'ils puissent pratiquer. Et quand ils viennent pour pratiquer, ils ne font pas que réparer les fistules complexes existantes, ils enseignent aussi. C'est ce qu'on appelle le compagnonnage chirurgical. Ils prennent des docteurs et des médecins congolais avérés qui sont déjà experts dans leur domaine et ils travaillent avec eux pour partager leur expérience et voir comment leurs techniques réciproques peuvent être mises ensemble pour encore soigner plus de femmes. Ça, c'est la première chose que nous faisons. L'autre chose que nous faisons avec les ONG nationales, nous recrutons les femmes qui sont dans les lieux les plus recrutés, nous les amenons vers les centres d'opération pour qu'elles puissent subir ces examens et ces opérations qui sont très très complexes et qui sont très très lourdes. Ensuite, nous essayons de les réinsérer dans la vie normale et civile en leur donnant un petit métier de base. Mais tout ça demande
beaucoup
de moyens.
Cela implique aussi les moyens, bien sûr, et l'apport financier.
Tout ça implique beaucoup de moyens. Mais si on s'arrêtait aux moyens, on ne ferait rien sur cette planète. Mon agence n'est pas la plus riche des Nations Unies, certes, mais elle est certainement celle qui contribue à sauver les vies. Et les vies qui importent, celles des femmes.
Madame la représentante Radio Capi, vous remercie beaucoup.
C'est moi qui suis honorée d'être interviewée par Radio Capi. Merci infiniment. Merci.
Le PAM et l'ONU SIDA signent une lettre d'intention de collaboration pour la lutte contre les VIH en République démocratique du Congo. La signature du document a eu lieu mercredi 30 mars 2016 au siège du PAM par les plus hauts responsables de ces deux agences onusiennes. Par cet acte, le PAM et l'ONU SIDA ont décidé d'unir leurs efforts afin d'apporter une réponse holistique au VIH en RDC. Rendons-nous à Lubumbashi dans l'ex-province du Katanga, où Ocha fait part de la persistance de l'épidémie de choléra. D'une capacité d'accueil de 30 lits, le centre de traitement de cette maladie dans la capitale du cuivre est débordé avec l'augmentation, entre autres, des demandes en hospitalisation. Conséquence, les malades se mettent à deux sur un petit lit. Et dans sa dernière note d'information humanitaire, Ocha précise que la tendance à la hausse est observée depuis février dernier. Le nombre des cas enregistrés entre le 14 et le 20 mars 2016 représente le triple des cas notifiés la dernière semaine de février, soit 10 cas. Enfin, dresser un état de lieu, élaborer un plan d'action pour les réserves de biosphère de la RDC. C'était quelques objectifs d'un atelier sur le programme L'Homme et la Biosphère de l'UNESCO. Un atelier organisé du 29 au 31 mars à Kinshasa par le secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO en partenariat avec le bureau de la représentation de l'UNESCO en RDC.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
330 000 m2 de terrain dépollués, 200 mines retirées, 30 000 résidus d'engins explosifs et 69 sous-munitions détruits. C'est en tout cas le bilan du travail réalisé en 2015 par le programme UNMAS en République démocratique du Congo. Le programme vise désormais à déminer la partie centrale de la RDC grâce à un financement du gouvernement japonais. Bruno Bouchardi, coordonnateur régional du programme UNMAS RDC, est notre invité. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elalikoko.
Monsieur Bruno Bouchardi, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous êtes coordonnateur régional pour le programme UNMAS en République démocratique du Congo. Ce lundi 4 avril, c'est la journée mondiale anti-mine. Les Nations Unies s'étaient engagées à militer plutôt pour un monde exempt du danger des mines antipersonnelles et d'autres engins explosifs d'ici 2021. Est-ce que cet engagement est en train de se matérialiser ou en est encore au niveau des intentions?
Eh bien, je dirais que pour la République démocratique du Congo, on est dans le concret depuis quelques années déjà. On a bon espoir de réaliser cet objectif 2021 dans de bonnes conditions.
Et en ce qui concerne le monde en général?
En ce qui concerne le monde en général, en fait, la date de 2021 a été fixée suite aux accords d'Ottawa pour la RDC. Pour d'autres pays qui connaissent une contamination et une situation sécuritaire plus déstabilisée, plus critique, cette limite a été reculée.
Revenons justement en République démocratique du Congo. On sait que l'UNMAS est sur tous les fronts, mais je prends un aspect tout à fait particulier, c'est l'aspect qui concerne la sécurisation des armes et munitions. On sait que les locaux de stockage, selon les normes internationales font défaut en République démocratique du Congo. L'année 2016 est supposée être une année électorale. Quelle est votre action dans ce domaine, notamment pour la police et les centres congolais de lutte anti-mines?
Eh bien, pour la police, je dirais que c'est un de nos axes d'effort majeurs pour la fin de l'année 2015 et pour l'année 2016, dans le sens où nous collaborons avec la PNC pour élaborer un plan national de gestion des armes et des munitions, plan national dans le cadre duquel on a commencé déjà à développer de l'amélioration d'infrastructures de stockage, à développer des formations de spécialistes pour la gestion des armes et des munitions, et également à développer des procédures standards nationales qui soient conformes aux standards internationaux. Tout cela dans le cadre de l'appropriation nationale, naturellement, de cette gestion.
Un autre aspect de votre action, c'est la gestion des engins explosifs. Hein. Quel bilan vous faites pour l'année 2015?
Vous m'excuserez de dire que ce bilan est positif quand on parle de tels engins de mort, mais typiquement pour le programme et tous ses partenaires, l'année 2015 a été particulièrement riche. Je le dis à chaque fois, un engin retiré du terrain, une mine déminée, une mine neutralisée, c'est autant de victimes potentielles en moins. Donc en termes de chiffres, on peut dire qu'on a environ déminé ou dépollué environ 330 000 m2 de terrain, situé toujours à proximité d'habitations ou de terrains cultivables. Une centaine, un peu plus de 200 mines ont été retirées du terrain. 69 sous-munitions ont été ramassées et détruites. Et environ 30 000 résidus explosifs de guerre, autres que mines et sous-munitions, ont été ramassées, dépolluées et détruites.
On va revenir sur le terme dépollué, mais oui. Où cette opération s'est passée exactement en République démocratique du Congo?
Alors, l'essentiel des opérations pour l'année 2015 se sont déroulées à l'est de la République démocratique du Congo, que ce soit dans les deux Kivu, dans l'ancienne province orientale et dans la région du Katanga. On parle bien ici essentiellement des opérations de déminage.
Et avec quels partenaires?
Alors, on a des partenaires qui sont à la fois des partenaires étatiques, le Sicilam, des partenaires nationaux avec des organisations non gouvernementales nationales et des partenaires internationaux comme les ONG MAG, Mines Advisory Group, NPA, Norwegian People Aid. Et comme partenaire, je dirais, institutionnel, comme sponsor, si vous me permettez l'expression, essentiellement le gouvernement du Japon, l'Italie, les Pays-Bas. On a pas mal de gouvernements qui se sont engagés pour participer à cette lutte.
Et parlons maintenant du volet enquête et dépollution. Qu'est-ce que cela signifie, enquête et dépollution?
Alors, dépollution, je comprends que c'est un terme qui peut paraître désorientant pour la gestion des engins explosifs. En fait, on parle de dépolluer lorsque on retire du terrain et qu'on neutralise tout engin explosif ou résidu explosif autre qu'une mine. Donc ça peut s'agir d'obus de mortier, il peut s'agir de bombes d'aviation, il peut s'agir de roquettes anti-chars. Mais dans ce cas-là, on parle de dépollution du terrain.
Est-ce qu'il y a encore du travail à faire pour l'instant ou bien c'est moins?
On a, comme je vous le disais, le bilan est extrêmement positif pour l'année 2015, qui prouve que l'augmentation des capacités au niveau national a été effective. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, la RDC ne sera jamais complètement débarrassée des résidus explosifs de guerre.
Et pourquoi ?
Tout territoire qui a été le théâtre de conflits connaît même des dizaines et des centaines d'années après des résurgences de ces munitions. L'objectif véritable, c'est que ces résidus explosifs de guerre, là où ils se trouvent, ne représentent plus un danger pour les communautés. Et que les communautés sachent vivre et puissent se développer tout en ayant cette présence de résidus explosifs de guerre.
Une question tout à fait pratique.
Je vous en prie.
Comment vous menez des enquêtes et puis comment vous faites pour faire la dépollution?
Je vous remercie beaucoup pour cette question. Eh bien, en fait, effectivement, comme vous le disiez, là, il y a deux volets dans notre action qui sont successifs. Tout d'abord, les enquêtes non techniques et techniques, et ensuite, la dépollution ou le déminage en lui-même. L'enquête non technique, c'est tout simplement un recueil d'informations auprès des communautés, auprès des autorités, ou un retour d'informations vers nos centres de coordination, ou le centre national, qui nous permettent de localiser une zone de danger, ou une zone où il y a eu un accident. L'enquête technique vient sur ce terrain pour permettre de déterminer si, effectivement, le danger est toujours présent, ou s'il s'agit juste d'une rumeur, ou s'il s'agit d'un accident qui est ponctuel avec une seule munition ou une seule mine qui a réagi. Cette enquête technique implique un travail sur le terrain qui parfois est assez long. Et enfin, le déminage ou la dépollution en elle-même, c'est le chantier de travail en toute sécurité suivant des procédures standards qui permettent à nos démineurs et à nos spécialistes de travailler en toute sécurité.
Oui, à part la région est de la RDC, vous avez parlé de l'ex-province orientale, de deux qui
vivent. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres provinces de la RDC qui sont concernées justement par ce problème des engins explosifs et des mines?
Touché par les mines, le nombre de provinces comparativement à l'étendue de la RDC est relativement restreint. Il s'agit essentiellement des zones de conflit majeures, comme on le disait tout à l'heure, l'est de la RDC, le Katanga, l'ancienne province orientale, mais également le nord de l'ancienne province de l'Équateur. Par contre, pour les engins, les résidus explosifs, les engins explosifs qui restent sur le terrain, les munitions qui sont abandonnées, on peut considérer que la menace est présente sur l'ensemble du territoire, du fait des différents mouvements de troupes étrangères ou illégales.
J'ai lu un communiqué à M. Pruneau qui parle de 2 millions de dollars que vous venez de recevoir du gouvernement japonais. Quels sont les nouveaux défis à relever avec cet important montant?
Eh bien, nous venons justement d'en parler. Les résidus explosifs de guerre sont présents sur tout le territoire. Il y a des territoires, du fait de l'étendue de la RDC, du fait des moyens restreint de la lutte anti-mine, des territoires où il n'y a pas de présence d'opérateurs spécialistes. Notre objectif pour l'année 2016, à l'aide de ce fonds, c'est de déployer un moyen de coordination et de centralisation au niveau de 5 provinces du centre de la RDC.
Lesquelles? L'Omami.
L'Omami, les Kasaï centrales et orientales et le Maniema.
C'est tout un projet.
C'est tout un projet.
C'est pour combien de temps?
Au minimum, l'ensemble de l'année 2016, avec le déploiement de deux équipes multitechniques qui sont capables de faire à la fois les enquêtes techniques et non techniques dont je vous ai parlé, mais également d'intervenir sur les engins explosifs qui pourraient avoir été décelés. Ils font également de l'éducation en risque et de la sensibilisation des communautés.
C'est lundi 4 avril, donc c'est la journée mondiale anti-mine. Est-ce que, pour terminer, Monsieur Pruneau, vous avez un message à la population congolaise?
Eh bien, je dirais tout d'abord que le premier réflexe lorsqu'on rencontre un engin explosif ou une mine, c'est de ne surtout pas le toucher, surtout un message à transmettre aux enfants, de faire connaître, surtout pas le toucher, le marquer au plus près mais sans le toucher, et faire connaître aux autorités et aux chefs de la communauté l'emplacement de cet engin pour que les mesures puissent être prises.
Bruno Bouchardi, Radio Capi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Ressent à Kinshasa pour la nouvelle de province, la modicité du budget alloué à la Commission nationale des droits de l'homme ne lui permet pas de jouer pleinement son rôle. Le président de cette institution citoyenne d'appui à la démocratie l'a déclaré mardi dernier au cours d'une matinée scientifique organisée entre autres par le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme de l'Université de Kinshasa. On écoute messieurs Mwamba, Mushikonki et Mwamus au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
Le budget de la CNDH pour l'année 2016 est d'environ 10 millions de dollars américains. Ce montant est modique au regard des rubriques qu'il doit couvrir, les investissements, les rémunérations, les primes et les coûts des activités. Il y a donc là une source de blocage. La faiblesse de l'appui du gouvernement de la République au travail de la CNDH est sans conteste l'un des défis majeurs auxquels cette institution fait face. L'expression de la plus éloquente de cette faiblesse est le montant du budget qui lui a été alloué. De très nombreuses démarches menées en fait d'obtenir une amélioration de la situation se sont soldées jusqu'à aujourd'hui par des échecs.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et si la brigade d'intervention rapide serait une entité distincte de la MONUSCO? Écoutez plutôt la question d'un confrère de la Voix de l'Amérique et la réponse de Félix Prosper-Bass, porte-parole de la MONUSCO.
Et Charlie Castelvecan pour la Voix de l'Amérique. Certains leaders du territoire de Beni demandent aujourd'hui la désolidarisation ou détachement de la FIB de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela?
Nous avons effectivement aussi pris connaissance d'un document qui circule depuis quelque temps relatif à le détachement de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO de manière générale. Je pense que cette tentative d'analyse ne trouve pas son fondement parce que, comme vous le savez, il a fallu plusieurs années pour asseoir ce que nous considérons comme une devise qui est une force, une mission et un mandat. Et je pense aussi que les auteurs d'une telle analyse ne prennent pas en compte beaucoup de facteurs. Car vous savez, la FAIB a été projetée ici, comme stipulé dans le document, il y a 3 ans. Pour que la FAIB, qui était à l'origine un concept, puisse prendre forme, il a fallu l'implication de tous les acteurs, notamment la brigade du Nord Kivu qui, comme vous le savez, occupe le terrain de la province du Nord Kivu et qui est déployée dans toute la province du Nord Kivu pour justement prendre en compte la menace sécuritaire posée par les groupes armés contre les populations civiles. Donc la brigade d'intervention est rattachée, appartient à la force de la MONUSCO. Et quand je lis ce document qui stipule même que, compte tenu de la lourdeur administrative, compte tenu de la lourdeur de cette machine onusienne, qu'il était préférable de séparer la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO. Je dois dire réellement que c'est ridicule, excusez-moi de le dire, parce que ce que l'on ne comprend pas, c'est que d'abord il faut aller dans les missions dévolues à la brigade d'intervention. Ces missions sont claires. La brigade d'intervention doit mener des actions offensives, doit être mobile. Mais pour qu'elle soit mobile, il faut qu'il y ait des gens, qu'il y ait des bases sur le terrain et qui puissent appuyer les actions de la brigade d'intervention. C'est pour cela que lorsque des novices parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas, ça a tendance à friser le ridicule. Donc je pense tout simplement que normalement, cette analyse ne mérite même pas une considération réelle parce que je me rends compte que les gens ne maîtrisent pas comment sont structurées les unités militaires.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je suis Amine Joadi. Je suis arrivé à Kinshasa il y a un mois maintenant pour travailler avec Radio Okapi en tant que stagiaire. J'ai commencé par une formation en communication. Je me suis spécialisé dans la communication politique à Paris. Après quoi, j'ai embrayé sur un autre master en géopolitique et aménagement du territoire. Donc c'était un master qui était spécialisé dans la gestion et des enjeux liés au projet d'aménagement du territoire. Donc tout ce qui concernait les jeux d'acteurs, les différents leviers utilisés par ces acteurs pour faire valoir leurs opinions et leurs préférences sur les projets. Donc pour le moment, chez Radio Okapi, je travaille sur la communication institutionnelle au sein du service web. Donc je prends le temps d'une part de me familiariser avec le Congo et le site d'information, enfin la radio en elle-même. Et par ailleurs, je travaille sur les différents moyens et produits que nous pouvons réaliser pour doter la Radio Okapi d'une image de marque plus forte. Voilà, pour le moment, je découvre encore le Congo. Généralement, mon temps libre, je passe à faire beaucoup de sport, notamment de l'aïkido, puisque j'ai réussi à trouver un club ici. Et voilà, donc je profite finalement de cette situation pour me familiariser notamment avec l'Afrique, puisque c'est un continent qui s'inscrit dans mes projets d'avenir et un continent dans lequel je compte évoluer et perdurer par la suite. En musique, mes préférences, c'est surtout ce qui va tourner autour du métal. Donc, c'est une forme assez violente de hard rock avec beaucoup de groupes qui sont notamment finlandais, norvégiens et suédois. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, notamment du free fight, du taekwondo. Là, maintenant, je fais de l'aïkido. Donc, voilà. Ouais, non, j'aime bien la nourriture japonaise, en particulier asiatique en général. Donc oui, indien, chinois, sushi, voilà. Ça. Le projet d'avenir, finalement ils sont encore un peu vagues. C'est vrai que j'aimerais à terme monter ma propre entreprise en Afrique. Voilà, le domaine, bon, ce serait bien sûr la communication, mais je suis encore à la recherche d'une vraie valeur ajoutée à donner à cette entreprise. Je remercie la Radio Okapi pour la chance qu'elle m'offre, et puis j'aimerais saluer aussi tous les auditeurs de Radio Okapi qui sont les premiers acteurs de cette radio finalement, et ce sont eux qui en font sa force.
Le
magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et notez dans votre agenda que le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. C'est déjà la fin du magazine des Nations Unies. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je suis Tina Salama. Je vous l'ai présenté à la mise en onde Alain Ngoy, au reportage Honoré Misenga Kalala, également Jean-Pierre Elalikoro qui assurait la coordination de ce magazine. Martin Sebujangwe l'a supervisé. On se dit à très bientôt sur les antennes de Radio Capi. Sinon, vous pouvez retrouver ce magazine sur notre site internet. Vous tapez le www.radiocapi.net. À très bientôt.